Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Tout autre chose, garde alternée, pourquoi le débat a-t-il cafouillé faire de la résidence alternée le principe en cas de séparation des parents? La proposition de loi Modem a fait l'objet de débats inachevés jeudi dernier à l'Assemblée, guidée par l'intérêt supérieur de l'enfant, selon son auteur, le député Philippe Latombe. La proposition de loi s'est révélée moins consensuelle qu'elle n'en avait l'air. Si pour certains, elle garantit une plus grande égalité entre les parents, pour d'autres, elle représente un danger pour les femmes et pour la stabilité de l'enfant. Du débat public au débat parlementaire, l'examen de la proposition de loi dans la nuit de jeudi à vendredi s'est soldé donc par un échec. Les députés n'ont examiné que 10 amendements sur 42 et le texte pourrait ne pas revenir avant le 17 mai. Mais pour parler de cette question et la garde alternée, à chaque fois qu'il en est question, elle fait débat. Bonjour Marie-Rose Moreau, vous êtes psychiatre, professeur de pédopsychiatrie à Paris-Descartes et chef de service de la maison de Solène. Vous avez notamment publié « Quand l'adolescent s'engage, radicalité et construction de soi ». Votre opinion sur cette question donc de la garde alternée, et tout d'abord, est-ce que l'on a véritablement des études qui tendraient à prouver que tel ou tel système est préférable pour l'intérêt supérieur de l'enfant, puisqu'on parle toujours de cela lorsqu'il est question de ces propositions de loi?
Alors, on a un certain nombre d'études sur les besoins des enfants, bien sûr, mais il faut être sincère d'un point de vue de la littérature scientifique. Il y a quelques éléments consensuels et le reste, en fait, dépend de choix que l'on fait pour nos enfants. Alors, les éléments quand même relativement consensuels, c'est que chez les petits, en dessous de 3 ans, disons, hein, il faut un système qui préserve la sécurité de l'enfant. Une sécurité, c'est bien sûr le lieu où l'enfant va habiter, mais aussi les conditions, la manière dont on s'occupe de lui. Hein. C'est pas simplement le lieu ne résume pas la sécurité pour les enfants. Mais bien sûr que cette notion de lieu unique pour un enfant petit, c'est surtout que l'enfant soit capable de bien anticiper ce qui va se passer pour lui. Qu'il puisse dire, qu'il puisse se représenter la manière dont les choses vont se passer au quotidien pour lui, sans conflit autour de lui, bien sûr, ça c'est une chose qui fait du mal aux enfants, mais aussi sans modification brutale qu'il n'est pas capable d'imaginer, d'anticiper. Et à ce moment-là, il se retrouve confronté à l'incertitude, mais surtout à des choses qui peuvent l'effrayer. Donc c'est cette question en dessous de 3 ans. Mmh. Après, on peut organiser la sécurité de manière différente. Mais en dessous de 3 ans, pour nous les pédopsychiatres, il faut vraiment qu'il y ait une sorte de préoccupation, de souci de cette sécurité. Lorsqu'ensuite les enfants grandissent, qu'ils vont rentrer dans des lieux d'accueil et à l'école, la question d'avoir des lieux multiples pour les enfants se pose différemment. Et là, on peut organiser la vie des enfants beaucoup plus facilement. Et bien sûr, deux choses, donc la relation au père et à la mère, et le quotidien, la stabilité du quotidien. C'est ça qui fait un attachement sécure pour les enfants.
Alors, toujours si on reste, en ce qui concerne donc ce projet de loi sur l'intérêt supérieur de l'enfant, vous qui êtes psychiatre et pédopsychiatre, Marie-Rose Moreau, qu'est-ce que l'on sait sur la manière dont les enfants comprennent le divorce de leurs parents? Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'y voir un peu plus clair à cet égard?
Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, hein, parce qu'en fait, la représentation du divorce et même les effets du divorce sur les enfants, elle a beaucoup changé. Aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est fréquent que des parents se séparent, que les familles se réorganisent. On est en train de changer de modèle familial. Et donc, il y a une sorte de banalisation qui protège un peu les enfants. Je commence par cet élément-là, parce que sinon, le deuxième élément, c'est que pour les enfants, globalement, même les adolescents, c'est toujours un drame que les parents se séparent. C'est un drame, c'est quelque chose qui, en général,
ça ne peut pas être bien vécu.
Alors, en fait, les enfants, ils sont très pragmatiques. Ils peuvent se dire, c'est beaucoup mieux comme ça. Mmh. C'est vraiment beaucoup mieux. Le conflit, l'inquiétude, les cris, tout ça, ça ne va pas. Ça me mettait en grande difficulté. C'est tellement mieux maintenant que je vais de l'un à l'autre et que je sais comment les choses vont se passer et qu'au fond, mes parents se respectent. Donc, ils peuvent très, très bien considérer que c'est beaucoup, beaucoup mieux et pour eux. Mais cette idée qu'ils n'ont pas réussi, ceux qui l'ont désiré, mis au monde, n'ont pas pu rester ensemble, il y a toujours un moment où les enfants vont se demander, mais au fond, est-ce qu'ils nous aimaient assez pour est-ce que le fait de nous aimer n'était pas suffisant pour rester ensemble? Et chez les petits, il y a cette idée que peut-être ils ont fait des choses, la culpabilité qui est très fréquente. Est-ce que je me suis bien comportée? Est-ce que je me suis comportée comme un bon enfant? Si je m'étais bien comportée, vraiment bien comportée, peut-être qu'ils ne se seraient pas séparés. C'est-à-dire qu'il reste une énigme de la séparation et du divorce. D'où l'importance que les parents disent les choses simplement, non pas tout ce qui se passe et qui appartient aux adultes, parce que franchement, parfois les enfants, ils en savent trop, il y a des choses qui les encombrent, mais simplement qu'en tant que parents, ils sont là, ils vont rester, et puis peut-être donner du sens quand même à la séparation.
Parce que c'est un peu une injonction contraire, ce que vous dites. C'est-à-dire, d'un côté, les enfants en savent trop, de l'autre, il faut leur parler. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Est-ce qu'il faut mentir vrai dans ce domaine? Est-ce qu'il faut essayer d'exposer la situation positivement, en essayant de positiver et en essayant de montrer que le divorce est la meilleure des situations possibles au vu de l'état du couple parental?
Alors, vous avez raison, c'est paradoxal, puisqu'on se sépare et en même temps, on veut rester des bons parents. C'est un peu la situation dans laquelle se trouve un couple qui divorce. Donc, ce paradoxe, il ne faut pas du tout, il faut pas l'annuler. C'est-à-dire qu'on ne dit pas... on se sépare, mais au fond, il n'y a aucun problème. C'est comme si c'était pareil qu'avant. Là, les enfants, ils perçoivent que ce n'est pas authentique. Il faut être authentique, mais ne pas... Mais rassurer l'enfant sur la fonction parentale. Mais oui, il faut donner un sens, il faut dire pourquoi on se sépare.
Mais qu'est-ce qu'on peut dire?
On peut dire parce qu'on s'est beaucoup aimé, et puis voilà. On ne sait plus. C'est plus pareil.
C'est là où l'enfant, d'après ce que vous dites, Marie-Rose Moreau, c'est là où l'enfant peut nourrir une certaine inquiétude. Si on ne s'aime plus, est-ce que c'est lié à ce que l'enfant a fait, n'a pas fait? Est-ce que c'est lié donc à l'intrusion de cet être dans l'équilibre du couple?
Et mais oui, bien sûr, mais il faut raconter une histoire en fonction en plus des âges des enfants, mais une histoire vraie. C'est-à-dire, si on ne s'aime plus, on dit qu'on ne s'aime plus. Si on dit qu'on n'arrive plus à vivre ensemble, si on dit qu'on n'est pas d'accord sur telle et telle chose, il faut dire quelque chose. Alors bien sûr, par exemple, la question difficile, c'est de dire « je pars parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui est plus important que ta mère ou que ton père ». Ça, c'est assez difficile parce que ça fait partie de ce qui appartient aux adultes. Et en même temps, c'est la réalité. Les enfants le savent en général, à ce stade. Ils ont entendu, ils ont vu... Donc, il faut dire ça, mais il faut le dire d'une manière qui ne vient pas remettre en question la fonction parentale.
Les enfants que vous recevez en consultation, Marie-Rose Moreau, est-ce que vous avez l'impression qu'ils comprennent, même lorsqu'on ne leur dit pas, quelles sont les causes véritables de la séparation de leurs parents? Bref, là aussi, quand vous dites « il faut leur raconter des histoires », est-ce que finalement, ces histoires, elles ne s'effritent pas au travers de ce qu'ils devinent, de ce qu'ils comprennent?
Ah oui, mais c'est pour ça que ces histoires doivent être des histoires vraies. Les enfants, même petits, ceux que je reçois dans mes consultations ou ceux qui viennent une fois ou deux comme ça au décours d'un moment difficile, ils en savent en général beaucoup, beaucoup plus que leurs parents pensent, même les tout petits, même autour de 4-5 ans. Donc, ils ont même parfois eu le pressentiment que ça allait se passer. Et d'ailleurs, c'est parfois difficile pour eux, puisqu'ils se sont dit « Ah, ça ne va pas aller, il va se passer comme les parents de ma petite copine, là, ils vont se séparer, ils vont divorcer. » Ils le disent aux parents, les parents disent « Mais non, mais non. » Et à ce moment-là, quand ça se passe, ils ont un sentiment presque... d'avoir participé, au fond, de l'avoir su avant les, avant les parents. Et oui, c'est quelque chose de... c'est pour ça qu'il faut être vraiment authentique et tranquille, parce que ils en savent... Ils sont comme ils sont au cœur du lien, souvent avec les parents. Ils en savent vraiment beaucoup et il ne faut pas leur raconter d'histoire.
La question de la garde alternée, comme d'ailleurs dans tous les divorces, elle pose des questions qui sont à la fois extrêmement pratiques, un domicile, deux domiciles, des questions matérielles, notamment des questions relatives à l'argent. Et on sait à quel point l'argent peut être un thème conflictuel au sein du couple. Et puis tout cela, normalement, devrait se régler entre adultes, sans qu'il y ait l'enfant comme spectateur et encore moins comme une tierce partie entre les deux parents. Comment fait-on pour évoquer ces thèmes? Faut-il les évoquer d'ailleurs auprès des enfants, Marie-Rose Moreau?
Alors, là aussi, ça dépend de l'âge. En tous les cas, il faut leur dire quelque chose. Parce que, justement, l'argent, c'est à la fois concret et symbolique. Pareil pour les enfants. Ils peuvent avoir peur, les enfants, au moment de séparation, que ça se passe mal, qu'ils aient pas ce qu'il faut, etc. Ils sont préoccupés par cette question. Mais, encore une fois, parce que c'est très concret, mais aussi parce que ça veut dire la part de chacun auprès des enfants. Donc, oui. Il faut leur dire en fonction de leur âge, mais il faut leur dire voilà comment on va faire. Ça va se passer comme ça pendant la semaine, pendant le week-end. Ça va se passer comme ça. Qui va participer aux choses? Bien sûr, il faut leur dire. Et chez les enfants plus grands, ils ont parfois la possibilité eux-mêmes d'avoir un avocat, c'est-à-dire quand même de participer à cette discussion de leur point de vue à eux.
Est-ce qu'il faut donc leur dire les choses à cet égard de manière franche et massive? Est-ce qu'il faut au contraire essayer donc d'enrober cela?
Il faut leur dire de manière authentique. Il faut leur dire, on va, je sais pas, tu vis chez ton père ou chez ta mère, mais ton père ou ta mère vont participer, vont donner de l'argent à l'autre parce qu'on veut tous les deux faire... participer à ton bien-être, bien sûr qu'il faut leur dire.
Vous avez dit au début, Marie-Rose Moreau, qu'il y avait de toute façon toujours une perception chez l'enfant que le divorce de ses parents était un drame. Parmi ceux qui, lorsqu'ils grandissent, s'éloignent de ce drame, réussissent à le digérer, eh bien, est-ce que vous avez des constantes ou en tout cas des schémas qui semblent mieux fonctionner que d'autres?
Alors, lorsqu'on grandit et lorsque soi-même on devient adulte et qu'on se pose la question des schémas familiaux, des couples, etc., c'est vrai que ce qu'on a vécu est toujours quelque chose d'important. Alors, il n'y a pas de généralité parce que un certain nombre d'adolescents qui ont vécu finalement pas trop mal la séparation de leurs parents peuvent considérer que voilà que au fond c'est pas un drame et que ça peut se faire. On voit aussi, et c'est parfois assez drôle, des adolescents qui ont vécu cela, qui ont par exemple une garde alternée très tôt et qui vont avoir des images de couples totalement classique, presque comme les grands-parents. En fait, tout est possible. C'est vraiment en fonction de la manière dont on vit les choses de l'intérieur. Mais les choses de l'intérieur, elles sont parfois, et c'est pour ça que c'est un sujet important pour nous, les pédopsychiatres, elles sont parfois plus complexes que ça en a l'air, quoi. La banalité de la séparation ne veut pas dire une banalité de l'expérience des enfants.
On va écouter le témoignage d'une maman au sujet de son divorce.
Honnêtement, la résidence alternée, pour moi, pour ma vie de femme, pour ma vie professionnelle, pour ma vie amoureuse, ouais, on va dire, ce serait l'idéal, d'accord? Parce qu'effectivement, ça me permet de me dégager du temps. Maintenant, quand je vois mon fils qui rentre en mille morceaux, qui est scotché à moi parce qu'il faut qu'il récupère, entre guillemets, une semaine, qu'il est insécurisé, dès que je disparais, maman, t'es où, alors qu'il a 9 ans, il y a quelque chose que pour l'instant, il subit. Et je peux rien faire.
Bon, j'imagine que des témoignages de ce type, dans ce sens ou dans un autre, d'ailleurs, vous en avez recueilli énormément, Marie-Rose Moreau.
Mais oui, parce que vraiment, c'est une histoire individuelle, quoi. D'où l'importance que chaque parent s'occupe de cette question avec son enfant. Parce qu'en fonction de la personnalité, en fonction de ce que les enfants ont vécu avant le divorce, la période d'avant le divorce, à mon sens, elle conditionne la manière dont on va vivre le divorce. C'est-à-dire, si avant le divorce, c'était extrêmement difficile et que on a oublié les enfants à ce moment-là, qu'on n'a pas pu, parce que c'était trop difficile, on n'a pas pu protéger les enfants, bien forcément, le divorce et après le divorce, ça va rester compliqué. Donc, il faut qu'à chaque étape...
Des divorces simples...
Eh bien oui, mais si. Non, pas simples, mais des divorces où on n'a pas mis l'enfant au cœur de la responsabilité. Ça, c'est possible. J'en connais. C'est très fréquent.
Dans ce cas-là, comment fait-on ? Cela signifie qu'on réussisse à avoir un dialogue complètement serein ou en tout cas apaisé ?
Ça signifie d'abord qu'on ne nie pas les choses, qu'on les reconnaisse, qu'on reconnaisse qu'il est en train de se passer quelque chose et c'est aussi quelque chose qui va avoir des effets sur l'enfant. Que l'on dise à l'enfant la vérité sans lui dire, par exemple, la vie sexuelle des parents, ça fait pas partie des choses que les enfants doivent savoir. Et puis qu'on se soucie de l'effet que ça a sur lui.
On va continuer à évoquer les conséquences de la séparation des parents. Aux environs de 8h20, vous serez rejointe, Marie-Rose Moreau, par Hélène Périvier, qui est économiste à l'OFCE et qui a beaucoup travaillé sur les conséquences économiques sur le couple, sur les parents de la séparation. Il est 8h sur France Culture.